Les Juifs, ce sont les habitants de Jérusalem et des environs. Hein. C'est d'abord ça. Juif, ça veut dire un Judéen, appartenant à la tribu de Judas. Je ne dirais pas toujours. Mais il faut voir, il y a un chemin qui se passe à travers la réalité des Juifs. On a écrit était sur ce sujet. Les uns disant, oui, comme Jean est antisémite. Les autres disant, mais voyez, Jean n'est pas du tout antisémite, vous comprenez très mal le sens des Juifs. Il faudra totalement vous expliquer là-dessus. Or, il disait, beaucoup d'entre eux, il a un démon, il est fou, pourquoi l'entendez-vous? Et ceci est évidemment le rappel de toute opposition, hein, les controverses du chapitre 7 et du chapitre 8. Il y a un démon, il est fou, pourquoi l'entendez-vous? D'autres disaient, et ils disent chaque fois, hein, les uns disaient, d'autres disaient. Donc, les manifestations de Jésus sont toujours données comme une liberté. D'autres disaient, ces paroles événements ne sont pas d'un possédé du démon, hein, comme avec l'aveugle là. Hein. Non, quand même, Dieu n'exauce pas un pécheur. Cet homme n'est pas un pécheur. Non, Dieu n'exauce pas un pécheur. Il est le prophète, qu'il est le Christ. Oui, mais le Christ ne vient pas de Nazareth, de Galilée. Les questions que pose la foi. Au fond, la foi était autre chose qu'une question. Ça aussi, c'est peut-être une des phrases de Jean Boston. La foi, est-ce que ça ne serait pas, est-ce que ça ne serait pas, il pose la question, est-ce que ça ne serait pas une question qui pose question? J'ai toujours assez de foi pour m'entendre poser la question. Je suis toujours capable de m'ouvrir à une question, à une affirmation difficile. Ces paroles, évidemment, ne sont pas d'apprécier du démon. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'aveugle? Donc je suis quand même lié, hein, avec l'aveugle. Alors arriva la dédicace. Donc, nous voyons que ici, c'est lié à la dédicace. La dédicace du temps. Il va falloir que nous reprenions tout le bagage d'Ancien Testament. La dédicace, qui se dit en hébreu Chanukka, Chanukka veut dire dédicacer, renouveler, inaugurer. C'est la fête de la reconstruction du temple. Alors, il y a une première dédicace à l'époque de Salomon, et puis il y a eu une seconde dédicace, c'était celle-là qui était faite au temps de Jésus, lorsque le temple avait été détruit par Antiochus Épiphane, vers les années 140 avant Jésus-Christ. Il avait été détruit par les Grecs, qui avaient installé à l'emplacement de l'autel des sacrifices, la statue de Zeus Olympien. L'abomination de la désolation. On parle d'Aliès. L'idole au milieu de la sainteté. L'abomination de la désolation. Et puis, donc, on avait reconstruit Judas Maccabée. On avait reconstruit le temple et on l'avait à nouveau dédicacé. Et cette fête de la dédicace, c'est aussi une fête qui dure pendant 8 jours. Et vous avez cette fête, le chandelier de la Chanukka. À l'orange. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et le milieu, c'est le chandelier que vous voyez qui est dans les maisons juives,
à peu près au moment où nous fêtons Noël. C'est pas assez proche. Assez proche, c'est seulement le chandelier du temple qui symbolisait l'homme. Le chandelier a 9 branches, 8 jeunes. On appelle aussi le besoin. Le chamache, celui à partir duquel on allume les autres. Donc nous allons venir tout à l'heure. C'est au moment où nous est, donc pratiquement au moment de Noël, c'est la grande fête de la lumière. Alors arrive à la dédicace, où les rénovations, Enkoïna, Enkaïna, Chalukah, nous dit aussi renouvellement, rénovation. Où Jérusalem, en Jérusalem, c'était l'hiver. Effectivement, c'est tout près, c'est toujours tout près du solstice d'hiver. Et notre fête de Noël avait la jointance avec la dédicace. Et il marchait Jésus dans le temple, dans le portique de Salomon, au sud du temple, un jour de l'année. Il l'encerclait donc, ils firent comme un enclos autour de lui. Il l'encerclait donc, et lui disait, jusque à quand enlèves-tu notre âme, nous ravis-tu notre personne? Et c'est pas pour rien que ce terme est utilisé, hein. Jésus met son âme, et eux, ils l'accusent de leur enlever leur âme. De leur enlever leur signification propre, leur personnalité. Si toi tu es le fils, dis-le-nous en public. Référence de Jésus chapitre 7, hein? À quel fait il marche? Il leur répondit Jésus. Oui, donc ça va jusque-là. Si tu es le fils, dis-le-nous en public. Schisme parmi les dix, qui est-il? Et maintenant, Jésus leur répond. Il leur répondit, Jésus, je vous le dis, et vous ne croyez pas. Vous voyez que tout est basé ici sur trois fois, sur des discours, des petits discours de Jésus, qu'il faut mettre bout à bout. Il leur répondit, Jésus, je vous le dis, et vous ne croyez pas. Il dit avec assurance, il dit même si. Comment vais-je manifester ce que je suis? Dis-le-nous en public. Mais je vous le dis en public. Mais comment? Les œuvres que moi je fais dans le nom de mon Père, elles rendent témoignage au sujet de moi. Et vous, vous ne croyez pas. Donc, que fait Jésus ici? Il montre, il manifeste, il met le doigt sur la nôtre. Les œuvres que moi je fais dans le nom de mon Père, elles rendent témoignage au sujet de moi, comme l'homme qui avait été guéri, hein, l'aveugle-né guéri, rendait témoignage au sujet de Jésus. Mais vous, vous ne croyez pas, comme les gens qui avaient interrogé l'aveugle, ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des brebis des miennes. Donc il y a quand même un test pour se reconnaître ou non de Jésus. Les brebis des miennes entendent ma voix et me ressentent. Et moi je les connais. Et elles me suivent. Et moi je leur donne vie éternelle. Vie éternelle, il vient pour ravir et pour perdre. Et non, certes, elles ne périront pas vers l'éternité pour toujours. Et quelqu'un, personne, ne les ravira pas de ma main. Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut le ravir de la main du Père. Donc je garde précieusement tout ce que le Père me donne. Et ce que le Père me donne, ce sont les hommes. Moi et le Père, un seul nous sommes. On avait parlé d'un troupeau à un pasteur, et maintenant moi et le Père, un. Vois d'où vient l'unité. Il est le seul à pouvoir faire l'unité, tandis que les autres font la dispersion. Donc le schisme n'est pas une œuvre de Dieu. Ils prirent de nouveau des pierres, les Juifs, afin qu'ils ne la fuient. Référence à ce chapitre 8 et référence à la fin, au début, la fin de la et référence à la fin du chapitre. Il leur répondit Jésus, « De nombreuses œuvres belles, je vous montrerai, dit-il. En raison de laquelle d'entre elles me lapidez-vous ?» Ils lui répondirent, les Juifs, « Au sujet d'une belle action, nous ne te lapidons pas. » Mais au sujet d'un blasphème, ça c'était la seule, encore à l'époque de Jésus, la seule occasion où l'on pouvait, éventuellement, l'accuser quelqu'un. Mais on ne le faisait pas dans le temps, comme on l'a dit. Et parce que toi, étant homme, tu te fais toi-même Dieu. Donc ils ont bien compris. Et non seulement ils ont bien compris qu'il dit qu'il est le Christ, mais qu'il dit comment il l'est. Il leur répondit, ne se trouve-t-il pas écrit dans votre loi? Moi je dis, vous êtes des dieux. Des dieux. Le psaume 82, que nous avons regardé tout à l'heure. Si cela, il est dit, Dieu, à l'adresse de qui la parole de Dieu arriva, et elle ne peut pas être déliée, l'écriture. Hein, vous êtes tous d'accord que l'écriture, ça tient, c'est la parole de Dieu.
Votre loi.
Oui, oui. Votre loi. Votre loi. C'est-à-dire votre manière de voir, de faire le voir. Celui que le Père sanctifie comme votre Père, hein? Celui que le Père sanctifia et envoya vers le monde, vous vous dites tout à fait. Je reprends la phrase. Si cela est des dieux, à l'adresse de qui la parole de Dieu arrive. Donc si le psaume dit vous êtes des dieux, en s'adressant à des hommes croient, qui croient dans la parole de Dieu. On ne peut quand même pas délier les choses. Celui que le Père sanctifia, voilà un mot nouveau, celui que le Père sanctifia et envoya vers le monde, vous vous dites tout à fait. Parce que je dis, fils de Dieu, je suis. Le seul endroit où vous trouvez que Jésus dit, je suis le fils de Dieu, de lui-même. Si je ne faisais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Et si je les fais, et qu'éventuellement à moi vous ne croyez pas, aux œuvres croyez, afin que vous ayez connu et que vous connaissiez qu'en moi le Père, qu'en moi est le Père, et que moi je suis dans le Père. Si même vous n'avez pas cette relation étroite avec moi, qui est la réalité profonde de la foi, au moins, soyez étonnés par ce que je fais, et reconnaissez à partir de ce que je fais, il y a un lien intime entre moi et vous. Donc peut-être que vous n'êtes pas tout de suite pris dans ce chemin de communion, qui est vraiment la foi. Mais au moins, soyez interpellés par cette foi.
Qu'est-ce que je dis de l'expression sur laquelle le témoin Jéhovah vous posait, le Père qui sanctifie Jésus.
Il est
le Père qui sanctifie Jésus.
Ah. Nous allons le voir. Sanctifier, c'est exactement affirmer, il faut plus qu'affirmer, confesser que la sainteté de Dieu est présente en lui. Donc il est divin. La sanctification, c'est toujours mettre quelque chose ou découvrir que quelque chose est en rapport immédiat avec Dieu, le seul saint. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est pour lui, je me sanctifie moi-même, qui revient plus loin. Et on discute, le père de la poterie a aussi un article pour montrer la différence qu'il peut y avoir entre consacrer et sanctifier. Consacrer, c'est rendre sacré. Donc c'est déterminer qu'une réalité qui était profane est mise, est prise dans la sphère du sacré.
Et il montre bien que ça, c'est un terme qui vient davantage du paganisme. Tandis que la sanctification, c'est découvrir la sainteté d'une réalité qui est déjà sainte parce qu'elle vient de Dieu. Oui, le mot latin dit sanctifier, agiazzo aussi. C'est la faire ou la déterminer comme. Pour le grec, c'est vraiment la kidouche, hein, le terme qui dit la sanctification, le kidouche, c'est une racine redoublée de la sainteté, c'est-à-dire vraiment reconnaître comme saint. Reconnaître quelque chose comme saint, c'est avoir avec lui ou instaurer avec lui une relation de sainteté. Et nous aurons l'occasion de revenir, parce que ce terme va revenir d'une façon très précise. Ah oui, pendant 60 ans.
Parce que Dieu n'a pas du monde. C'est vrai, reconnaître que Dieu est saint et qu'il le soit pour nous dans notre vie, puisque lui nous est saint.
Soyez saints parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Cette expression qui revient constamment dans Lévitique. Je suis le Seigneur. Il cherchait donc de nouveau à l'appréhender et il sortit de leurs mains. C'est-à-dire, il montre qu'ils sont voleurs et brigands. Et il s'éloigna de nouveau au-delà du Jourdain, vers le lieu là où Jean d'abord baptisait et il demeura. Ça, c'est encore un des versets charnières qui va nous propulser dans le chapitre 11e avec l'histoire de la vache. Où en sommes-nous dans le temps? Ah! Nous avons encore quelques minutes. Qu'est-ce qui est derrière ça? Alors, il faut bien, la thématique l'impose, aller regarder toute une thématique, un thème qui vient chez les prophètes. Et dans les psaumes aussi, notamment le Seigneur du peuple. Hein? Mais on va d'abord aller voir, si vous voulez bien, deux textes qui sont essentiels, Jérémie 23 et Ézéchiel 34. Parce que c'est en regardant ces textes, que connaissait Jésus bien sûr, que nous allons pouvoir découvrir ce qui est propre à l'évangile de Jean. Ce sont les deux grands textes sur les pasteurs. Et le chapitre 23 de Jérémie, que je prends d'abord, commence par « Malheur au pasteur, au pluriel. Il laisse périr et se disperser le troupeau de mon pâturage. » Vous voyez, il commence un peu comme Jésus. D'abord le négatif. Les pasteurs devant lesquels nous sommes sont des troupeaux qui laissent périr et se disperser le troupeau de mon héritage, de mon pâturage. Bon, il s'agissait évidemment des pasteurs d'Israël, c'est-à-dire des notables, des chefs, qui ont laissé se dégrader la situation et qui sont devenus finalement la proie des Assyriens et des Babyloniens. Malheur aux pasteurs qui laissent périr et se disperser le troupeau de mon pâturage. Appeler un chef, un pasteur, n'est pas propre à la Bible. Ça vient dans la Bible, bien sûr, hein, parce que Moïse était pasteur, les patriarches étaient des pasteurs, David était un pasteur, mais l'expression, vous la retrouvez chez Homère, qui parle de cosmétoré laon, pasteur de peuple. Une manière d'exprimer, pour une civilisation agraire, civilisation de pasteurs, d'exprimer ce que le chef, le roi, fait vis-à-vis de son. C'est l'attention d'un troupeau, d'un pasteur pour son troupeau. Très important parce que, évidemment, son troupeau, c'est son cheptel, c'est sa nourriture, c'est sa richesse,
tu laisses la maladie intervenir dans le troupeau, tu ne veilles pas à ton troupeau, c'est vraiment la déroute.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui ont à paître mon peuple.
Il faut commencer à comprendre ce qu'est le tous, tous ceux qui sont venus avant.
Vous avez laissé s'égailler et s'égarer mes brebis.
Vous ne vous en êtes pas occupé. Vous n'avez certainement pas posé votre arme pour vous.
Eh bien moi, je vais m'occuper de vous pour vos méfaits.
Pour d'abord le régleur, oracle du Seigneur.
Mais je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai dispersés et je les ramènerai dans leurs prairies. Elles seront fécondes et multiplieront.
Oui, l'accent est mis sur la fécondité, les brebis.
Je susciterai sur elles des pasteurs qui s'emploieront à les faire paître. Elles n'auront plus crainte ni terreur, aucune ne se perdra, oracle du Seigneur. Et puis on ajoute deux oracles. Voici venir les jours, oracle du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste, qui régnera en vrai roi.
Voilà donc celui qui sera le pasteur. David devient une figure, la figure du Messie,
qui régnera en vrai roi et sera intelligent, exerçant dans le pays droit et justice. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom dont on l'appellera, le Seigneur notre justice. Donc, le troupeau a comme nom la justice de Dieu. Aussi, voici venir les jours, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus le Seigneur est vivant qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte.
Ça, c'est une histoire ancienne.
Mais le Seigneur est vivant qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés pour qu'ils puissent demeurer sur leur propre sol. Ici, il y a une idée importante, enfin deux idées. D'abord, les faux pasteurs et le vrai pasteur qui va venir. Et ce vrai pasteur est dans la ligne de David, donc en roi du Seigneur. Et puis le rassemblement du peuple de tous les endroits où il a été dispersé. Voilà deux idées, deux thèmes que vous trouvez déjà présents dans Jérémie. Maintenant, alors on voit l'élève de Jérémie, hein, celui qui a été d'abord son disciple et puis qui a pris son envergure propre, Ézéchiel, qui reprend le thème et qui l'élabore, comme si nous avions une parabole et puis son élaboration. C'est au chapitre 34e, Ézéchiel, et le thème est le même, les pasteurs d'Israël. C'est un oracle, un long oracle, contre les chefs du peuple qui n'ont pas bien gardé. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, vous savez qu'il est toujours interprété de cette manière-là. Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise. Tu leur diras pasteur. Ainsi parle le Seigneur. Malheur aux bergers d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Commence de la même manière, malheur aux pasteurs, mais qui se fait c'est-à-dire qui se mange eux-mêmes, qui mangent leur propre cul. Hein. Les bergers ne doivent-ils pas faire le troupeau? Vous êtes nourris de lait, vous êtes vêtus de laine, vous avez sacrifié les brebis les plus graves, vous n'avez pas fait le troupeau. Et c'est très écologique, ça. Hein. Le troupeau n'est pas uniquement pour le pasteur. Le pasteur est aussi pour le troupeau. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas utiliser, consommer les biens que le troupeau lui donne de manière absolue pour son envie, pour son confort.
vous n'avez pas fortifié les brebis chétives, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Oui, je vous assure. Bon, ça paradoxe. Mais vous les avez réduits avec violence et dureté. Nous retrouvons le thème des mercenaires. Elles se sont dispersées faute de pasteurs pour devenir la proie de toute bête sauvage, le loup. Et elles se sont dispersées. Mon troupeau, erre partout sur les montagnes et sur les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul ne s'en occupe et nul ne se met à sa recherche. Vous voyez que nous parlons toujours de pasteur pour responsabiliser à nouveau les chefs du peuple. Donc dire « je suis le bon pasteur », c'est dire en même temps « vous êtes aussi pasteur les uns des autres ». Eh bien, pasteur, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur, je le jure, parce que mon troupeau est mis au pillage, il devient la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs, il me faut toujours pasteur au pluriel, pasteur au singulier, et parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau, parce que mes pasteurs se paissent eux-mêmes sans paître mon troupeau, eh bien, pasteur, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je vais prendre à partie mes pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau, et je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes. J'arracherai les brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur, voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je le passerai en revue, comme un pasteur passe en revue son troupeau quand il est au milieu de ses brebis dispersées. Je passerai en revue mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées au jour de brouillard et de ténèbres. Je les ferai quitter les peuples où elles sont, je les assemblerai des pays étrangers, et je les ramènerai sur leur sol. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les ravins et dans tous les lieux habités du pays. Dans un bon pâturage, je les ferai paître. Sur les hautes montagnes d'Israël sera leur pâturage. C'est là qu'elles se reposeront dans un bon pâturage. Elles brousseront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. Et c'est moi qui laisserai reposer au racle du Seigneur. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je guérirai celle qui est malade, celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je ferai paître avec justice, notre justice, vous avez entendu. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais juger entre brebis et brebis. Donc il y a une liberté pour les pasteurs, qui est leur responsabilité vis-à-vis du troupeau. Il y a une liberté pour les brebis. Donc elles sont également, les pasteurs, les brebis, elles sont également responsables. Non contentes de paître dans le bon pâturage, vous foulez aux pieds le reste de votre pâturage. Vous égrasez l'herbe du pâturage. Parce que vous ne mangez pas, vous piétinez. Non content de boire une eau limpide, vous troublez le reste avec vos pieds, vous piétinez dans le plat. Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Alors pas quand même. Il faut faire attention aux autres. Eh bien, ainsi leur parle le Seigneur. Me voici, je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre. C'est en vérité, c'est peut-être au détriment de ta sœur. Parce que vous avez frappé les reins, de l'épaule et les cornes, toutes les brebis souffreteuses, jusqu'à les chasser dehors. Je vais venir sauver mes brebis pour qu'elle ne soit plus d'opiage, je vais juger entre brebis et brebis. C'est vrai que la ligne de démarcation se passe finalement en nous. Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur, David. C'est lui qui les fera paître, qui sera pour eux un pasteur. Moi, le Seigneur, je serai pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Et voilà Dieu et le pasteur qui sont unis dans un lien étroit. Ce n'est pas évidemment celui du fils et du père, mais du serviteur à Seigneur. Vous voyez comment ça fonctionne, relecture des textes, et Jésus alors établit quelque chose de nouveau que nous allons voir tout de suite. Moi, j'ai dit, je conclurai avec eux une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Ils habiteront en sécurité dans le désert, ils dormiront dans les bois. Je les mettrai aux alentours de ma colline, et je ferai tomber la pluie en son temps, et ce sera une petite bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses produits, et ils seront en sécurité sur leur sol. C'est le psaume, hein, psaume 95 qui est en train de dire. Et l'on saura que je suis le Seigneur, quand je briserai les attaques de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Ils ne seront plus un butin pour les nations, et les bêtes du pays ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité, on ne les trouvera plus. Je ferai pousser pour eux une plantation célèbre. Il y a bien les plantations, hein. Il n'y aura plus de victimes de la famine dans le pays, ils ne seront plus en but des insultes des nations. Et l'on saura que c'est moi, leur Dieu, qui suis avec eux, et que la maison d'Israël, ils sont mon peuple, oracle du Seigneur. Et vous, mes brebis, vous êtes le troupeau que je fais paître, et moi je suis votre Dieu. Et c'est le terme de l'âme. Nous avons encore un passage. Il se trouve chez un des petits prophètes, l'avant-dernier des petits prophètes, le prophète Zacharie. Mais là, dans le prophète Zacharie, nous avons quelque chose d'un peu différent. Vous avez deux pasteurs. Mais on se demande pourquoi cette brouillage. Ainsi me parle le Seigneur, au chapitre 11, verset 4 à 16. Zacharie, 11, 4 à 7, à 16. Ainsi me parle le Seigneur, paix ses brebis d'abattoir. Que leurs acheteurs tuent sans encourir de sanctions à propos desquels les vendeurs disent bénissent le Seigneur, me voilà. De nouveau, on fait des brebis une richesse et ça devient uniquement du commerce. On ne regarde plus la brebis en elle-même. On fait le commerce avec les hommes et on ne regarde plus la valeur, la dignité de chaque homme. On en fait les brebis à la fois. N'oublie pas que la brebis, tout le fait que nous avons dû, représente toujours des personnes. Béni soit le Seigneur, mais voilà, et dont les pasteurs s'occupent sans ménagement. Alors, je me mis, alors oui, ça c'est une parenthèse, je ne veux plus ménager les habitants de la terre, oracle du Seigneur, mais voici que je livrerai les hommes chacun aux mains de son voisin et aux mains de son roi, ils dévasteront la terre, je ne délivrerai pas l'homme. Alors je me mis à paître les brebis d'abattoir au compte des maquillons. Je me munis de deux bâtons. J'appelais l'un faveur et l'autre union, grâce et union commune. Je me mis donc à paître les brebis. Je rejetai les trois pasteurs en un mois. Et j'en arrivais à me dégoûter des brebis et elles me détestaient. Alors je dis, je ne vous paîtrai plus. Que ceux qui veulent mourir meurent. Celui qui meurt meurt, que ce qui veut disparaître disparaît. Et que les bêtes restantes dévorent chacune la chair de sa voisine. Autrement dit, vous voyez, il dit comme un commandement ce qui est au fond ce qui se passe. Mais comme rien n'échappe à la volonté de Dieu, il nous donne comme un commandement. Ça, c'est toute la manière de s'exprimer de plusieurs prophètes, mais notamment de Zacharie. Alors, puis je me saisis du bâton de faveur. Je le brisai,
pour rompre l'alliance que le Seigneur avait conclue avec tous les hommes. Une sorte de hymne qui dit quelle est la situation. Dieu avait constitué une faveur, une grâce entre lui et son peuple, et voilà que tout a été démoli par la faute du peuple. Elle fut donc rompue en ce jour. Et les maquignons qui m'observaient s'aperçurent qu'il y avait là une parole du Seigneur. Les maquignons, hein, ce sont de nouveau les esclaves des pasteurs chez Ézéchiel, c'est-à-dire ceux qui devaient se soucier du peuple des chiens. Alors je leur dis, si cela vous paraît bon, octroyez-moi mon salaire, sinon laissez. Et ils pesaient mon salaire 30 cycles d'argent. Mais le Seigneur me dit, jette-le au trésor, le beau prix auquel il m'a fait fier. Parole qui va revenir à propos de Judas. Et je pris les 30 cycles d'argent, je les jetai dans le temple du Seigneur, dans le trésor. Ensuite, je brisai mon deuxième bâton union pour rompre la fraternité entre Judas et Israël. Samarie et Judas. Et le Seigneur me dit, prends encore l'équipement d'un pasteur insensé. Car voici que je vais susciter un pasteur insensé dans ce pays. Il y a un sage, mais un sage qui pratiquement ne peut rien faire parce que le peuple veut sa ruine. Et même, certains ont vu Ézéchias, certains ont vu Josias, derrière ce pasteur sage, certains ont vu la figure du Messie. Et puis prends un pasteur insensé. Car voici que je vais susciter un pasteur insensé dans ce pays. Ce qui est perdu, il n'en aura plus. Ce qui est égaré, il ne le recherchera pas. Ce qui est blessé, il ne guérira pas. Ce qui est épuisé, il ne soutiendra pas. Et il mangera la viande des animaux gras et arrachera leurs ongles. En fait, un de ses sabots servait à faire des bijoux. Malheur au mauvais pasteur qui délaisse le troupeau. Que l'épée soit sur son bras et sur son œil droit, et que son bras se dessèche complètement, et que son œil soit totalement aveuglé. C'est une image en deux pasteurs pour dire, voilà, le Seigneur avait été un pasteur, le pasteur avait essayé de se soucier de son troupeau, mais finalement tout a foiré. Alors, il y a deux images de pasteurs, le pasteur sage et le pasteur insensé. Quelle image voulez-vous représenter? Voilà votre situation. Ça, c'est le texte de Zacharie. Oui, il est un peu différent. Les deux autres sont plus proches, disons que la parabole est plus proche des deux autres que j'ai vus d'abord. Mais il faut encore, et après ça, on va arrêter, il faut encore que nous lisions, évidemment, le psaume, parce que il est sur la trajectoire de ce thème, le psaume 22-23, le Seigneur est mon berger. L'image revient donc plusieurs fois dans les psaumes, mais là, d'une façon tout à fait claire et précise. Alors, il est intéressant de voir que le psaume du bon pasteur vient après le psaume 22. Et le psaume 22, c'est le psaume serviteur souffrant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, le serviteur donne sa vie et reçoit une bénédiction de Dieu. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me parque, vers les eaux du repos, il me mène. Donc, c'est une explicitation. Du chapitre 24, le 34e d'Ézéchiel, où il disait, je prendrai moi-même. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je n'ai craint aucun mal. Près de moi, son bâton, sa houlette, sont là qui me conduisent. Probablement conduisent. Il y a un jeu de mots là, vous voyez. Nachamenu sont là qui me consolent. Mais
Nachinu, font là qui me conduisent. Et le même, peut-être, comme le père Raoul nous l'a bien montré, peut-être une consonne de liaison. Et donc, il semble bien que le mot qu'il faudrait dire, c'est « près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me conduit ». Cette consonne n'est pas mauvaise, évidemment. Mais le texte primitif était sans doute conduit. Et puis, dans la traduction, et enfin, grâce à Dieu, conduit. On a compris l'hébreu comme étant une autre race. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Une onction qui me parfume la tête, ma coupe s'écorche. L'onction qui parfume la tête, c'est vraisemblablement l'onction messianique, le Messie. Donc, c'était compris en tout cas à l'époque de Jésus, le Seigneur est mon berger, c'est le Messie qui sera le véritable berger. D'où l'allusion au Messie, au Christ, dans le texte que nous avons lu. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure, mon oncle, c'est la maison du Seigneur, le temple, tous les jours de ma vie. Et quand on fait travailler un texte sur l'autre, dans ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire quand on rappelle la mémoire, quand elle devient vivante à partir d'un thème, on voit que tous ces thèmes s'entremêlent et créent comme un tissu sur lequel la parole de Jésus va se détacher. Et que vraiment, c'est ça que je voudrais que nous puissions s'en dire, c'est combien le texte de l'Ancien Testament est prégnant du Nouveau. Il donne les images et le langage qu'il faut pour que Jésus en donne un surcroît de signification. Il a déjà de la signification par lui-même. Mais il y a comme une surabondance, la surabondance de l'eau à Cana, la surabondance des pains, hein, près de Tibériade, et comme une surabondance de sens, une surdétermination qui est donnée par lui. Je suis le bon parti. Mais d'abord, il dit, je suis la porte. Nous reverrons ça. Depuis tout un âge d'homme, il attendait, n'attendait rien. Il espérait, n'espérait rien. Il vivait sur son grabat, comme toi, comme moi. De temps en temps, de loin en loin, chaque matin, ou tous les 10 ans, la main de l'ange faisait bouillonner l'eau. Mais il avait beau guetter, et ses yeux touchés par l'aile frémirent avant l'eau. Rien en lui ne bougeait que ses larmes. Toujours un autre était né. Et lui, tristement, criait miracle. Il ne comptait sur personne. La dédicace, c'est quelque chose de très curieux parce que les juifs n'ont pas de texte. Ils ont un tout petit bout de texte, 5 lignes, dans le Talmud, qui parle de la dédicace. Et qui ne dit qu'une chose sur la dédicace, c'est comment utiliser le chandelier à ouvrance. Plus une. Et nous avons, dans notre Bible, un texte sur la dédicace. Oui, parce que nous avons les livres des Maccabées, et que ces livres des Maccabées sont des livres qui, pour nous, sont canoniques. Tandis que dans le judaïsme, puisqu'ils ont été composés en grec, ils ne le sont pas. Il y a un problème. Ah. Alors,
nous trouvons deux fois la relation de ce texte. Vous le trouvez dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 4, verset 36. Jusqu'à la fin du chapitre. Et vous en avez un deuxième récit, un peu plus bref, au chapitre 10 du deuxième livre des Maccabées, donc 1 Maccabée 4, 36 et suivant, et 2 Maccabées 10, 1 à 8. Je vous lis le texte le plus court. Maccabée, vous savez que Maccabée veut dire le marteau. Judas le martel. Maccabée, avec ses compagnons, retrouvera sous la conduite du Seigneur le temple et la ville. Et détruisit les autels élevés par les étrangers sur la place publique, ainsi que les enceintes sacrées. Une fois le temple purifié, ils bâtirent un autre autel. Puis ayant tiré les étincelles des pierres à feu, ils prirent de ce feu, à quelques niveaux, hein. Ils prirent de ce feu. Donc je suis à 2 Maccabées 10. 2 Maccabées 10 d'abord, hein. Ah, c'est après les livres historiques. Avant Job, avant... Oui, avant Job. Une fois le temple purifié, ils bâtirent un autre hôtel, puis ayant tiré les étincelles des pierres à feu, ils prirent de ce feu, et après 2 ans d'interruption, ils offrirent un sacrifice, firent fumer l'encens, allumèrent les lampes, et exposèrent les fins de proposition. Donc, on reprend